3 ans, quitter cet univers de l'entreprise pour créer ma propre entreprise, un souci d'indépendance, un souci de création. Et avec Marie-Chantal, nous sommes lancés dans le monde de l'immobilier. On désirait travailler en couple, on souhaitait être indépendant, on souhaitait créer. Et le risque le plus grand, comme vous êtes jeune, je dois quand même vous le dire, le risque le plus grand que j'ai pris en fait à ce moment-là, c'était de travailler avec ma femme. Mais on s'en est bien sorti, oui, c'était il y a quelques années. Alors cette première expérience dans l'immobilier fut à la fois exaltante et difficile. Je quittais pour ma part un monde avec un bel avenir tout tracé. Nous avions 2 enfants et on se lançait sans réserve financière, sans parachute, mais avec une vraie confiance en l'avenir. Une inconscience peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le monde professionnel était beaucoup plus facile que celui dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et puis nous avons rejoint donc un membre de notre famille pour créer cette affaire qu'on a vite développée et on a créé des services de gestion immobilière et pour ma part je me suis lancé dans l'aménagement de territoire, les opérations de lotissement. Et on s'est aperçu que dans un univers à l'image négative, et très négative à l'époque, grâce à une réputation d'intégrité, très vite on a développé notre clientèle de particuliers, mais aussi on a eu des rapports très vite excellents avec le monde de l'administration avec lequel il faut travailler et avec le monde des communes. Et puis, en 12 ans, on a construit une belle petite entreprise. Nous étions 4 personnes. Marie-Chantal travaillait à mi-temps avec 2 enfants qui étaient arrivés et qui sont venus agrandir la famille. Mais au bout d'une douzaine d'années, on ressentait une certaine solitude de l'indépendant et on avait envie d'élargir notre horizon professionnel et puis de rentrer dans un univers plus global. Nous avons rencontré à ce moment-là un chef d'entreprise du groupe Intermarché qui nous a présenté son univers, un groupe national fort implanté nationalement, mais aussi à l'international. Et l'originalité du groupe nous a séduit par certains aspects qu'on ressentait positivement, comme une logique de respect du consommateur à travers une notion de juste prix, une certaine solidarité entre les dirigeants qui nous paraissait intéressante, un souci de promotion de l'homme avec une devise qui était qu'il n'y a de richesse que d'homme. Et puis une notion de partage de responsabilité à travers ce qu'on appelle dans notre jargon le tiers-temps, c'est-à-dire qu'on doit consacrer le tiers de son temps à faire fonctionner le groupe. Et ça, on doit le faire gratuitement. C'est-à-dire 2 jours par semaine, et si on a des lourdes responsabilités, c'est 3 jours par semaine, on quitte son entreprise et on va diriger le groupe. Et d'ailleurs, les frais d'ailleurs sont à notre charge, sauf si on a des responsabilités internationales. Et là, quand on quitte son entreprise pour diriger le groupe, on laisse les affaires personnelles, c'est-à-dire les intermarchés, on les laisse à sa femme, et qui doit se débrouiller. Et ce qui explique que d'ailleurs, on ne rentre chez nous que quand on ne rentre en couple. Et ce n'est pas toujours facile pour l'épouse qui se retrouve seule à la tête des entreprises pendant qu'on est parti. Mais participer à ce groupe, c'était une sorte de participation à notre bien commun. Un autre aspect qui nous plaisait aussi, c'est une notion d'égalité chez nous, c'est-à-dire que vous ayez un tout petit point de vente minuscule ou de très grosses affaires, de toute façon, un homme égale une voix. Et donc, séduit par ça, nous avons décidé à ce moment-là de recéder notre affaire et nous avons vendu notre maison et nous avons trouvé un point de chute dans le Pas-de-Calais. Et là, la période de démarrage fut passionnante, elle fut aussi ardue. Il a fallu construire le magasin, embaucher 25 personnes, des risques financiers non négligeables. Un chiffre d'affaires extrêmement difficile au début, parce que le concurrent, qui n'était pas très éloigné, avait décidé qu'il ferait en sorte qu'on ne puisse pas décoller. Et on s'est trouvé là face à toutes les réalités de notre vie qu'on a dû aborder, c'est-à-dire essayer de concilier la vie de famille, la vie amicale, garder nos nombreux amis qu'on avait, la vie personnelle, et puis les problématiques de lien avec la commune, la vie au sein du groupement, ce fameux tiers-temps dont je vous parlais. Donc période un peu difficile, passionnante, et au bout de 5 ans, on a revendu cette affaire, et c'est comme ça que nous sommes arrivés dans ce département. Nous avons racheté l'Intermarché de Compiègne, et là, on est parti dans un rythme un peu effréné de croissance, en créant un étau avec 8 personnes. Compiègne, on était avec une soixantaine de salariés, et on a racheté Fitzgems, pour ceux qui sont de l'Oise, on a racheté Clermont, et racheté ensuite l'Intermarché de Margny-les-Compiègne, et pour finalement... nous lancer dans des politiques d'agrandissement de points de vente, raser certains points de vente, donc vraiment une course effrénée au travail et à l'expansion. On avait 200 salariés, 30 000 clients semaine, donc vous imaginez que ça demande un tout petit peu d'heures de travail, beaucoup de relations avec des entreprises, fournisseurs, etc. Et puis, dans le cadre de mon tiers-temps, je me suis trouvé très vite avec des responsabilités importantes. Pendant les 6 premières années, j'étais responsable du développement dans ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France. Alors le développement, c'est quoi? C'est trouver des terrains, créer des centres commerciaux, trouver des emplacements pour les enseignes. Et après ces 6 premières années, je me suis retrouvé à la tête du groupement en Belgique. Nous avions décidé de nous développer là-bas. Donc quand je suis arrivé, il y avait un tout petit noyau de 9 points de vente. Et donc là, pendant 6 ans, il a fallu recruter de nouvelles personnes pour nous rejoindre, trouver des terrains, des permis de construire, négocier avec des fournisseurs, etc. Créer un entrepôt. Ces 6 années ont peut-être été d'ailleurs les années les plus fascinantes de ma vie, qui étaient celles vraiment de la création. Et au bout de 6 ans, nous étions 2000 personnes en Belgique. Et avec des responsabilités extrêmement lourdes. Et là, j'ai décidé de passer la main, considérant qu'à un moment donné, il faut éviter de trop s'incruster dans les postes. Et j'ai pris la responsabilité de l'humain au niveau du groupe, l'humain adhérent, c'est-à-dire en fait les chefs d'entreprise, pas les salariés. Où là, se posait à moi la question de comment ces valeurs dont je vous parlais, qui nous paraissaient belles, mais qui, au contact de réalité, n'étaient pas forcément évidentes à faire vivre, comment essayer de maintenir ces valeurs et comment essayer de les faire passer aux plus jeunes générations. Avec un maître mot que j'ai essayé de mettre dans mon action, c'est de créer de la proximité et de l'écoute. Ce qui, quand vous êtes à la tête d'une responsabilité internationale, nécessite... vraiment une orientation, une organisation spécifique. Après cette période de gestion de l'humain, je suis passé au pôle financier, responsable de la direction budgétaire, et puis enfin, pendant 6 ans, responsable de la direction financière du groupe. Là aussi, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement, quelque chose de passionnant, mais il est évident que ces défis auxquels je m'affrontais était pour le chrétien que j'étais une problématique de dire mais comment je vis l'évangile au milieu de tout ça, comment les valeurs évangéliques je les mets en application. Voilà, et je vais passer la parole à Marie-Chantal qui va exposer maintenant ce qu'a été cette première phase, cette première longue phase de notre vie, comment nous avons essayé de vivre pendant cette phase-là notre vie de chrétien en entreprise.
Alors cette première étape de notre cheminement, elle est longue puisqu'elle dure environ 20-25 ans. Eh bien, nous avons vécu un peu notre vie de chef d'entreprise en parallèle avec notre vie de chrétien. Notre éducation chrétienne, celle que nous avons eu la chance de recevoir par nos parents, notre famille, la formation qu'on avait eue tous les deux à la Catho de Lille, ainsi que les engagements que nous avions avant de travailler tous les deux, Patrick dans des groupes de réflexion qu'il avait créés, et moi-même avec l'AGEC et puis le scoutisme, eh bien nous étions un peu en quelque sorte imprégnés. Notre pensée était imprégnée d'un certain nombre de valeurs. et un peu comme une évidence, on était un peu tombé dedans. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'épreuve de la réalité professionnelle et des conflits nous mettent en confrontation avec la réalité. Dans cet univers, en fait, on avait posé quelques préalables au début de notre mariage. On s'est dit, il y a des choses importantes, incontournables, auxquelles on doit tenir absolument. D'abord, c'était de préserver ce temps de la messe du dimanche, pour nous-mêmes, et puis ensuite pour nos enfants. Vraiment ça, on avait dit, ça c'est incontournable, on en a vraiment besoin. C'est une pause spirituelle, hebdomadaire, c'est ce temps de prière en communauté chrétienne. C'est un temps d'écoute de la parole, par les textes, mais aussi par les homélies. Et on disait souvent aux prêtres qu'on rencontrait, vos homélies, elles sont importantes pour nous. C'est vraiment un ressourcement. Alors, il faut qu'elles soient bien. Hein. Voilà.
Et, on a toujours été gâtés pour ça. Hein.
Et puis la communion, bien sûr, comme une nourriture absolument nécessaire. Alors, dans le Pas-de-Calais, au début, dans le premier Intermarché notamment, c'était pas évident, c'était pas facile, parce que le magasin était ouvert 7 jours sur 7, on était près de Berck, le long de la mer, donc on était dans un lieu touristique, donc il fallait que le magasin soit ouvert, et comme c'était difficile, on avait besoin d'être ouvert, et donc c'est Patrick qui, le dimanche, allait ouvrir le magasin de façon à préparer l'ouverture de 9h. Il ouvrait à 6h, ensuite à 8h il allait dardard à la messe, de 8h à 9h, vous voyez que c'est pas forcément un climat idéal pour se préparer, et puis à 9h il allait ouvrir avec les collaborateurs, et puis moi j'allais de mon côté à la messe avec les enfants, donc pas forcément évident à vivre. Alors nous avions décidé, donc ça c'était un petit exemple pour montrer que même là, même cette priorité-là, elle n'est pas facile forcément à vivre. Et puis on avait décidé aussi de garder un engagement, d'avoir un engagement dans l'Église, malgré l'importance du travail. On se dit c'est important de ne pas te perdre de pied et de rester engagé dans cette vie de communauté. Alors bon, au Havre, on a fait la préparation au mariage, à Rouen, de la promotion de la presse chrétienne par la Croix, et puis on a participé à la création de la première radio chrétienne, qui a été vraiment une expérience extrêmement intéressante dans tout début des radios chrétiennes. À Montreuil, ben là, on avait un peu moins de temps, donc je faisais de l'animation liturgique. Puis à Compiègne, eh bien, on a fait de l'aumônerie à l'école des enfants et notamment moi, la chorale liturgique paroissiale. Voilà, donc on a essayé à la fois de garder ce temps pour la messe, ce temps de présence dans la vie de l'Église, et puis bien sûr, on était conscient que tout ce qui nous alimentait, on allait essayer de le vivre dans notre vie professionnelle. Alors on le voyait comme un troisième pied, et puis on disait respect de l'autre, qui nous paraissait important, capital, l'honnêteté bien sûr, le sens du travail bien fait, et celui du service.
Mais on s'aperçoit qu'au quotidien, les difficultés qu'on rencontre sont nombreuses. On vivait d'ailleurs à l'époque, les années 70-90, dans une société peu porteur, avec une image négative de l'entreprise. La société avait une image négative, l'Église aussi. Et il n'était pas rare que nous soyons montrés du doigt. Et plus d'une fois... comment ? Et plus d'une fois, à la fin d'une homélie, j'étais pas très satisfait de la vision qu'avait le prêtre du monde du travail. Bon. Mais c'était pas à Compiègne, c'était avant ça. Et puis travailler dans la grande distribution, c'était pas forcément bien vu à l'époque. Hein. Je me souviens quand on a annoncé qu'on rentrait dans le monde de la grande distribution, on avait même reçu une lettre anonyme pour nous expliquer que c'était pas compatible d'être chrétien et de travailler dans l'univers de la grande distribution. Ces remarques nous touchaient, mais elles nous interrogeaient. Et puis, ce qui n'était pas facile à vivre au quotidien, c'était ce problème de la maîtrise du temps. Comment trouver un équilibre entre ce travail et les risques qu'on avait pris, les endettements qu'on avait, et puis ce temps pour la famille, ce temps pour les amis, le temps pour le couple, ces périodes de vacances, comment ne pas oublier de fêter les anniversaires, comment fixer des priorités. Je me vois encore, parce que ce n'était pas programmé, ne pas pouvoir aller à l'enterrement de cousins, etc. Donc tout ce qui était en dehors de mon agenda était difficile à honorer, ce qui est quand même un tout petit peu un comble quand on arrive à ce point-là. Difficile de maîtriser le temps, difficile aussi de prendre du recul et d'analyser un peu en chrétien ce qu'on faisait et les décisions qu'on prenait. Sentiment un peu de solitude aussi. Nous étions animés de valeurs profondes. Nous étions profondément ancrés dans la foi, mais vraiment seuls. Et notre héritage familial, heureusement qu'il était là, heureusement qu'il était solide. Mais ce n'était pas forcément évident et nous étions souvent tiraillés entre nos convictions profondes et puis les responsabilités qu'on avait, entre notre conception qu'on avait de la dignité et des prises de possession de certaines de nos collaborateurs. Certains de nos collaborateurs, notamment nos directeurs de magasins, étaient parfois en conflit, ils ne respectaient pas les valeurs qui nous paraissaient essentielles. Tiraillés entre la nécessaire efficacité, mais aussi le droit à l'erreur, entre la rigueur et la malhonnêteté qu'on rencontre. Et puis, comment faire face à la réalité d'un univers que vous connaissez bien, d'une concurrence chaque jour plus importante, et puis en même temps notre désir aussi de donner une chance aux plus fragiles. Difficulté à prier quand on est en permanence dans l'action, tellement on était submergé par la vie qui était la nôtre. C'est intéressant ce que je dis, mais c'est à toi de parler là. C'est pas souvent que Marie-Chantal m'écoute comme ça, ça me fait plaisir. C'est des moments de grâce.
Alors ces difficultés, en fait, ont généré tout au long de ce cheminement un certain nombre de questionnements. Les questionnements, en fait, l'Évangile nous les pose. Les paroles du Christ sont parfois très très dures quand elles parlent du monde. Alors j'en ai retenu une, mais on pourrait en citer, n'est-ce pas, plein. Je prends celle du premier chapitre de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2. Écoutez, elles sont vraiment dures, hein. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, et la confiance orgueilleuse dans les biens ne provient pas du Père, mais provient du monde. Quand on écoute ça, on est quand même tout à fait remis en cause. Mais l'esprit du monde, c'est quoi ? Bien, c'est peut-être un monde où Dieu est absent, comme le Père le disait tout à l'heure, hein. L'absence de Dieu dans ce monde. Dieu oublié, voire rejeté, avec toutes les dérives qui en découlent. Est-ce que nous n'avons pas été de l'esprit du monde quand nous nous sommes laissés submerger par le rythme de travail, par l'envie qui est peut-être devenue prioritaire, de performance, de réussite, et même parfois de pouvoir. Et pourtant, le Christ ne nous fait pas fuir le monde. Il nous invite au contraire à être dans le monde. Le choix que nous avions fait de l'Évangile pour notre mariage, c'était justement l'inverse. C'était dans Saint Matthieu, le chapitre 5, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Donc c'est vraiment, on ne peut pas être le sel ni la lumière du monde si on n'est pas dedans. Voilà. Et puis dans Saint Jean aussi, chapitre 2, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est toujours dans les ténèbres. Qui aime son frère demeure dans la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien auprès de nos frères dans le monde qu'on est appelé à vivre en chrétien. c'était bien au quotidien qu'on a à vivre de l'Esprit de Dieu. Et on ressentait ce tiraillement dont parlait Patrick tout à l'heure, une insatisfaction diffuse. En plus, on avait quand même les témoignages, la chance d'avoir les témoignages des prêtres qui nous entourent, puis particulièrement le témoignage du frère de Patrick, qui est prêtre, qui a donné toute sa vie à Dieu et pour l'Église. Donc on avait en quelque sorte un sentiment de ne pas accomplir ce qui était notre vocation. Nous manquions d'équilibre, et notre vie chrétienne manquait de quelque chose, de sel. Enfin, voilà. En fait, nous avons compris dans ce long cheminement que nous avions besoin d'unifier notre vie, qui avait trop le parallèle vie professionnelle, vie chrétienne, et plutôt trois quarts vie professionnelle et puis un quart de vie chrétienne. Et en fait, on a découvert qu'on était trop seul, qu'on avait besoin de réfléchir avec d'autres. Alors plusieurs fois, un ami notamment nous avait dit, viens rejoindre le groupe de partage, etc. Et on était en fait tellement omnubilés, tellement pris dans ce climat, qu'on n'avait pas saisi cet appel, on n'avait pas compris. Et en fait, avec le temps, on a un autre ami quand on était à Compiègne, qui est venu nous voir et qui nous a dit, on va créer une équipe des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Compiègne. Et en fait, là, enfin, je crois que l'esprit, il était là, et ça a trouvé profondément, ça a trouvé écho chez nous. Et ce fut vraiment un tournant qui nous a fait passer de cette première étape à cette deuxième étape de notre vie.
Là, c'est un petit peu ce tournant dans notre vie, cette deuxième grande étape, ce serait peut-être une vie de chrétien chef d'entreprise, et non pas ce qu'était un peu notre vie avant, l'inverse, chef d'entreprise chrétien. Une sorte d'inversion de paradigme pour une vie réunifiée. Nous créons à ce moment-là la première équipe des dirigeants chrétiens à Compiègne. Je suis heureux de voir qu'il y en a quelques-uns dans l'Assemblée. Avec une quinzaine de dirigeants et d'entrepreneurs, nous ressentons tous le même besoin de partager ensemble de façon fraternelle, de marquer des temps de pause, de marquer des temps de réflexion, de marquer des temps de prière. C'était tout sauf un club de rencontres mondains. On a veillé à la simplicité des lieux, à un repas partagé mais plutôt frugal. Et tous les mois, avec l'aide d'un conseiller spirituel, qui était soit un prêtre ou un pasteur, d'ailleurs parce que les EDC sont œcuméniques, on met en commun nos pratiques professionnelles, on échange sur nos projets, nos difficultés, tout cela sous le regard de Dieu. Et on essaie de comprendre ce que le Christ nous dit aujourd'hui par sa parole. Tous les mois, nous nous écoutons les uns les autres, avec fraternité, avec humilité. Nous écoutons et nous échangeons sur nos problèmes professionnels ou personnels, sur nos joies, nos victoires, les difficultés. Et le partage nous permet de nous ouvrir les uns les autres à d'autres dimensions de notre action. La lecture de la parole de Dieu, peu à peu, change notre regard et nous aide au discernement. Mais au sein de cette équipe, nous avons vécu une évolution intéressante. On s'est aperçu, nous avons démarré et nous avons essayé de faire en sorte que des personnes nous rejoignent, et puis nous avions fait un noyau dur, et ce noyau dur était rejoint régulièrement par d'autres personnes qui venaient mais qui repartaient. Donc on ne comprenait pas, donc nous, noyau dur, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et ça a duré deux ou trois ans. Et puis, à un moment donné, tous les deux ans aux EDC, nous avons des assises nationales, et nous n'y allions pas parce que, là aussi, problème de temps, puis à un moment donné, la pression du national est là, et à un moment donné, on dit, il faut quand même qu'on y aille, ils insistent de trop, et nous sommes allés tous ensemble aux premières assises à Bordeaux, à notre première participation aux Assises à Bordeaux. Et là, il s'est passé quelque chose qui nous a tous frappés, c'est que nous étions à peu près 1200 dirigeants chez l'entreprise. Et notre première rencontre, on nous a demandé, alors que nous étions en train de prendre un pot, un peu comme ici dehors, mais il faisait plus chaud qu'ici quand même, on nous a demandé de faire silence. Donc, faire silence, c'était, mais bon, on n'était pas trop dans l'ambiance. Faire silence pour rentrer, et les EDC, les assises allaient commencer. Et là, nous sommes rentrés en silence dans un grand amphithéâtre, où un lieu de prière avait été préparé sur l'estrade, et nous sommes tous installés, sans parler, et pendant une demi-heure, nous avons prié. Et de cette expérience vécue, de ce qu'avait été le démarrage des assises, on s'est dit, mais on s'est centré sur l'essentiel quand nous étions aux assises à Bordeaux, et nous, notre équipe, ne se fonde pas sur l'essentiel dans notre mode de fonctionnement. Même si, je vous l'ai expliqué, on essayait de vivre, de regarder, de mettre sous le regard du Christ ce que nous vivions, mais nous ne le faisons pas bien. Et nous avons décidé à ce moment-là que nos réunions changeraient de mode de fonctionnement et que nous commencerions toutes nos réunions par le temps de prière et que ce serait peut-être l'élément qui devait être le plus préparé par nos équipes. Et nous avons fonctionné comme ça. Et il s'est passé la chose suivante, c'est qu'à ce moment-là, les nouveaux arrivants, eh bien, quasiment tous restaient. C'est-à-dire que c'est la parole du Christ sur laquelle on se centrait qui a fait qu'à un moment donné, les gens ont répondu profondément à ce qu'était l'attente des gens. Et ce matin, j'ai eu l'immense plaisir de voir qu'il y avait ici dans la salle quelqu'un qui avait rejoint la quatrième équipe qui s'est créée, hein, qui s'est créée en janvier dernier sur Compiègne. Nous avions nous donc créé la première équipe. Au bout de un an, comme les gens venaient rester, on était trop nombreux, donc on s'est séparés en deux, Marie-Chantal et moi. Donc on est restés ensemble, disons. Donc on a créé une deuxième équipe et la deuxième équipe, à un moment donné, il y avait trop de monde qui nous rejoignait en suivant la même méthode. Donc on est trop nombreux, et donc au moment où nous passions la main, nous avions décidé de quitter les EDC parce que j'avais cédé mes entreprises, je prenais ma retraite, semi-retraite, on nous a demandé de créer la troisième équipe. Et voilà, et donc j'ai appris ce matin que c'était la quatrième était créée. Ça veut dire qu'un changement radical s'était opéré. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que si ce changement est radical, il n'en est pas moins lent. Comme une lente maturation. Le Christ ne nous brusque pas. Il nous prend par la main. Et là, c'est de nouveau à toi.
Alors, au cours de cette deuxième étape, il y a un événement qui va nous marquer, qui va beaucoup marquer notre vie à tous les deux. C'est le cancer de Patrick, qui nous surprend, car sans antécédent familial et encore jeune, et que l'on détecte heureusement très tôt, grâce en particulier à des batteries, c'est le bon côté des choses, à une batterie de contrôle de santé pour un emprunt important souscrit pour des investissements pour nos entreprises. Comme quoi ça sert. Voilà, il ne faut pas refuser de les faire, surtout. Alors, en plein chantier de transfert, on était en agrandissement d'un côté, en transfert de l'autre. Patrick subit une opération lourde qui va le clouer au lit plusieurs mois. Alors vous imaginez bien que ce fut quand même une période de doute. Il était sur Paris, moi j'étais sur Compiègne. Ce fut un temps de doute, un temps de difficulté, un temps de travail colossal avec les quatre entreprises et les quatre enfants. Voilà. Mais ce temps nous a... Cette période nous a beaucoup, beaucoup soudés tous les deux. Mais en même temps qu'il nous a soudés, ça nous a aussi, ça a accentué notre questionnement sur le sens de notre vie. Alors tous ces événements nous interpellent, et puis en même temps, on sent, et avec tout ce cheminement avec les EDC, on sent vraiment la présence de Dieu auprès de nous. Je pense qu'on n'aurait pas pu vivre cette période-là de façon à peu près équilibrée et à peu près sereine s'il n'avait pas été là. Et donc, cette rencontre des EDC, plus ces événements, en fait, nous font prendre complètement conscience que Dieu est avec nous. On le savait par notre éducation, on le savait, mais en fait, je ne suis pas sûre qu'on en était, on l'avait vraiment complètement intégré, On a pris conscience que le Christ, en fait, nous accompagne de façon quotidienne dans notre vie. Et il est avec nous, bien sûr, à chaque fois que nous le prions. Et en fait, plus nous pensons à lui, puis en fait, plus on peut rentrer en contact avec lui. Et plus nous ressentons que nous sommes en relation avec lui, et plus nous acceptons de nous faire transformer par lui. Il est aussi, bien sûr, dans l'Eucharistie, on l'a évoqué tout à l'heure, il est dans la lecture de la parole, et puis alors là, ben, on prend un peu de temps, on décide de prendre un peu de temps pour suivre un cycle de formation biblique, basique, parce qu'on en est à nos débuts, avec le groupe ABC Bible, qui existe dans notre diocèse. Et ça nous a donné le goût de la parole, la compréhension et le goût de la parole. Alors, nous avons aussi découvert les commentaires des textes du dimanche par Marie-Noëlle Tabu, parce qu'avec cette bibliste, avec des phrases simples, une approche incarnée, vivante et nourrissante. Je vous conseille vivement ces quatre livres. On en a fait cadeau à nos enfants, d'ailleurs. Et je vous les conseille vraiment vivement. Alors, on a découvert aussi qu'il était présent avec nous au cœur de notre vie personnelle, professionnelle, le compagnonnage avec l'équipe EDC et la méditation de la parole, en fait, tout cela est un tout. En fait, on a découvert que le Christ ne nous abandonne pas. Et on s'est souvenu de la parole de Dieu à Moïse, « Va, je suis avec toi ». Voilà, t'es pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls. Et à travers le travail avec les EDC, on a découvert qu'il est dans ceux avec qui on travaille quotidiennement tous les jours. Et ça change complètement notre regard. Il est dans le fournisseur, hein, précisément, dans le fournisseur que je reçois. Il est dans le client que je rencontre. Fournisseur avec qui je négocie un contrat, donc de façon âpre. Eh bien non, il est là aussi. Il est dans l'employé, dans le collaborateur que je convoque pour une sanction. Il est dans le collaborateur qui me demande une augmentation. Il est dans l'émigré qui fait la manche sur le parking de l'Intermarché et qui gêne les clients. Il est dans Nadège, pompiste, que je reçois pour un licenciement. Dernier recours après des changements multiples de poste pour essayer de lui trouver quelque chose qui lui va, et des dizaines de fautes importantes et répétées, dont le fait qu'elle fumait en cachette dans le kiosque de carburant, ça va pas trop, ça. Et qui nous dit comprendre notre décision de la licencier et qu'on aurait même dû le faire plus tôt. Et bien cette femme, Nadège, nous continuons à la voir. Et elle nous remercie aujourd'hui de l'avoir licenciée, qu'elle a retrouvé un travail d'accompagnement de personnes âgées ben qui lui va beaucoup mieux. J'aime à titre personnel ce chant, parce que Patrick il chante pas, moi je chante, qui dit « Donne-moi » C'est un chant du Secours catholique, d'ailleurs. « Donne-moi ton regard au Seigneur, apprends-moi à te voir, montre-toi dans le frère au Seigneur, donne-moi ton regard. » Je pense qu'en fait, j'ai souvent ces deux phrases présentes à l'esprit. Je pense que si on les a tout le temps, ça nous aide.
T'as peut-être envie de la chanter, maintenant.
Vous les connaissez, ce chant ? Donne-moi ton regard, ô Seigneur, apprends-moi à te voir, montre-toi dans le frère, ô Seigneur, donne-moi ton regard. Voilà. Il est beau, vous pourriez l'apprendre. Alors, il est présent avec nous, il nous accompagne. Dieu nous accompagne, le Christ nous accompagne. Mais aussi, il est un Dieu qui enseigne par le Christ, qui est un maître, qui enseigne, qui donne du sens. Et il nous enseigne notamment par l'Église, par tous les textes que l'Église, et ça on le découvre notamment avec les EDC, tous les textes que l'Église a produits. Tous ces documents sont importants, depuis les encycliques Rerum Novarum, 1891, c'est pas hier, Populorum Progressio du pape Paul VI en 67, dont Benoît XVI disait des choses importantes, quelles sont les encycliques de l'époque contemporaine qui éclairent le chemin de l'humanité en voie d'unification. C'est quand même des textes importants, jusqu'à celle qui est très connue et qu'on a beaucoup travaillé, qui est l'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI. Alors ces encycliques, elles ont l'avantage non seulement de s'adresser à nous les chrétiens, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté. Et elles sont d'une richesse incroyable, et elles ont le grand intérêt de pas seulement s'adresser à notre foi, mais elles s'adressent à notre raison. Et c'est un grand pas que Benoît XVI, enfin une route que Benoît XVI a tracée. Alors ces textes nous rappellent quelque chose qui va être un peu fondamental pour nous. On va redécouvrir ça. Le projet de Dieu pour l'homme, quel est-il? Dieu crée l'homme pour qu'il soit heureux, qu'il parvienne à la plénitude en étant totalement uni à lui, Père très aimant. Et c'est le Christ qui permet cette pleine communion. En découvrant, en redécouvrant ce projet de Dieu pour l'homme, en fait, on replace notre travail comme une participation à l'œuvre de Dieu. Ça donne du sens à notre travail. Œuvre dont il nous confie la gestion. Il nous confie ce monde et nous en sommes responsables pour orienter ce monde vers Dieu. En fait, il nous rend gardiens du jardin de Dieu. Et ça, on retrouve ces phrases-là dans Laudato Si. Et il nous dit, ces textes nous disent que servir le projet de Dieu, c'est servir l'humanité.
Cette évolution que l'on a, cette découverte que l'on fait, change la vision de notre univers professionnel, Marie-Chantal et moi. La vocation de l'entreprise, qui est de créer des richesses, s'inscrit vraiment dans le projet de Dieu. Elle crée des richesses matérielles qui sont indispensables pour les collaborateurs, pour les fournisseurs, mais aussi pour l'État, les collectivités, à travers les impôts et taxes qu'on peut payer, qui ne sont pas négligeables. Mais l'entreprise est aussi fondamentalement un lieu important de création de richesses humaines, de promotion, un lieu de relations humaines. Et nous prenons conscience que notre entreprise doit participer au développement intégral des personnes. Ça nous est demandé à travers l'enseignement de l'Église et on sent qu'on doit le vivre. Créer du travail, qui est une de nos missions, c'est créer quelque chose de bon. Le travail étant l'inverse de la pensée marxiste du travail aliénant. Jean-Paul II disait « Le travail est constitutif de la personne, il permet à l'homme de participer à l'activité créatrice de Dieu. » Et c'est vrai que quand on voit l'importance qu'a pris le chômage chez nous aujourd'hui, on se dit que c'est vraiment un drame important pour les personnes. Nous avons pris conscience de la nécessité de faire grandir chaque personne. Et le travail participe à la croissance de la personne à chaque fois que, concrètement, on favorise dans nos entreprises des relations de respect Toute personne doit être respectée. Les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, ce n'est pas toujours facile à vivre. En cas de licenciement pour faute, il ne faut jamais enfoncer la personne, même si on doit se séparer d'elle. Mais il faut aussi reconnaître un droit à l'erreur des personnes dans l'entreprise. Ça doit exister. Il nous faut favoriser aussi des relations de confiance. La parole doit être toujours tenue vis-à-vis de qui que ce soit, au-delà des écrits, bien avant les écrits. Il faut que les négociations avec les interlocuteurs qu'on a soient toujours des négociations équilibrées et jamais profiter des situations de force dans lesquelles on peut être parfois, mais pas toujours. Il nous faut favoriser des relations de développement et de reconnaissance des compétences de nos collaborateurs, de la nécessité de formation, de promotion, de travailler les évolutions de carrière. Il nous faut travailler une ambiance cordiale dans l'entreprise. C'est important, avec des règles de jeu claires. Et puis, pratiquer l'exemplarité des comportements de nos responsables vis-à-vis de leurs subordonnés, mais en premier lieu de nous-mêmes. Et il nous faut exercer cette grande règle que nous enseigne l'Église, la subsidiarité, qui veut dire que le niveau de responsabilité, les responsabilités doivent être au niveau des personnes qui peuvent les prendre elles-mêmes et pas à l'échelon supérieur. Pour qu'une entreprise fonctionne bien, il nous faut respecter cela. Et quelle joie réelle on a pu avoir quand on a permis à des collaborateurs de devenir responsables de rayon ou directeurs de magasin, et que 5 d'entre eux aujourd'hui sont des chefs d'entreprise au sein de notre groupement. Et quand j'ai quitté la Belgique, j'ai passé la main à un de mes collègues, qui est quelqu'un que j'avais recruté pour devenir adhérent, qui était un ancien boucher. Ce type est devenu un chef d'entreprise absolument remarquable, et c'est lui qui m'a succédé, quand j'ai quitté la Belgique, avec une performance qui était vraiment excellente, tellement cet homme avait du bon sens et savait aussi manager les autres personnes. Un autre point qui concrètement a changé pour nous, c'était la vision et le rôle que notre entreprise elle-même devait avoir. Notre entreprise elle-même, en tant que personne morale, devait être citoyenne. Et ça s'inscrivait en décalage complet par rapport à ce qu'était ma vision auparavant. Notre entreprise doit elle-même être soucieuse du bien commun et faire en sorte que cette appréhension du bien commun, elle le soit par les personnes avec lesquelles on travaille. L'encyclique Mater et Magistra dit « Le bien commun comporte l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité. » Et Benoît XVI, dans son encyclique, nous dit « C'est une exigence de la justice et de la charité que de vouloir le bien commun et de le rechercher. » Alors, le bien commun, c'était pour nous travailler à respecter la planète de nous-mêmes, en évitant le gaspillage, en essayant, avant qu'il y ait des règles qui soient fixées par la loi, de récupérer les déchets, les cartons, les plastiques, de développer la vente de produits bio ou équitables. Nous avions introduit dans nos points de vente les produits Alter Eco qui étaient créés par Tristan Lecomte, qui est un type assez génial, qui a produit cette marque de produits équitables, et que nous avions d'ailleurs invité à Compiègne au sein des équipes d'essai. On avait passé une magnifique soirée avec lui et il nous expliquait quelle était la vue qu'il avait du respect de la planète et de rapport équitable avec les pays en développement. Et puis notre entreprise, on a voulu aussi qu'elle soit partie prenante de la vie de la cité. On a travaillé avec des vrais partenaires et à jouer un rôle actif dans les commissions auxquelles on demandait de participer et auxquelles nous étions auparavant réticents, considérant qu'on avait autre chose à faire. Participer aux associations, le Téléthon, les associations de commerçants, venir en aide financière pour boucler la rénovation d'une église. Auparavant, j'aurais dit non, il est hors de question que je participe. Éventuellement, je le fais à titre personnel, mais pas par mon entreprise. L'entreprise, ce n'était pas son rôle. Si, nous avons découvert que c'était aussi son rôle à elle et pas uniquement à titre personnel. Et puis évidemment, bien avant que l'État s'occupe de ça, les produits qui étaient non vendus, abîmés, etc., il était hors de question de les jeter. Et nous avions travaillé avec des associations, et surtout des religieuses d'ailleurs, pour faire en sorte que ces produits soient intégralement récupérés et puis donnés aux personnes en situation de précarité. Ce qui, à bien des égards d'ailleurs, nous mettait à l'époque en porte-à-faux vis-à-vis des règles légales. Et puis, nous sommes intervenus dans les écoles, nous avons ouvert davantage notre porte à des stagiaires, tout ça toujours dans cette optique de dire l'entreprise elle-même doit devenir citoyenne. Et aussi le respect du développement de nos collaborateurs. Nous refusons à Compiègne d'ouvrir le dimanche matin notre point de vente. La respiration dominicale, qui était un élément important dans notre vie, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nos collaborateurs qui pratiquent le dimanche matin, mais il est clair que nous, on ne veut pas ouvrir le dimanche matin, même si tout le monde nous le réclame, et en premier lieu nos clients. Mais peut-être que nos enfants ne pourront pas le faire. Nous, Marie-Chantal et moi, on est amortis, si vous voulez, donc financièrement, on peut plus facilement supporter de ne pas être ouvert le dimanche matin, mais c'est plus facile que pour nous, que ça ne peut l'être pour nos enfants. Et là, c'est nouveau à toi.
Alors, il y a un autre aspect qui est celui qu'on a aussi découvert et que l'Église nous enseigne, qui est celui de la gratuité et du don dans la vie de l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Caritas in Veritate le dit. Dans son numéro 36, il dit « Dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. C'est une exigence de l'homme, mais aussi une exigence de l'activité économique elle-même. » Alors vous voyez, une nouvelle exigence de l'Église pour notre temps. Donner à l'entreprise, à notre entreprise, une place pour le don et pour la gratuité, eh bien ça nous semblait révolutionnaire. Et pourtant, il fait bien partie de notre vie et nous pouvons l'exercer. D'abord par le temps donné pour l'écoute, un vrai temps donné, pas entre deux portes. Par la place donnée à l'accueil du plus fragile, du démuni. Par le regard ou les réponses à celui qui est différent, le handicapé. Notamment, je me souviens très bien à Compiègne, une dame qui venait très régulièrement tous les vendredis avec un grand jeune adulte handicapé qui criait dans le magasin et ça gênait les gens. Et plusieurs fois, des clients nous avaient dit il nous gêne, vous ne pourriez pas faire quelque chose, quoi, pour empêcher. Comment? Et à chaque fois que les gens nous le disaient, on disait non, il a sa place. Il a sa place. Alors, le regard, donc, sur les plus fragiles et handicapés, et aussi par un choix qu'on a toujours fait d'aider financièrement les collaborateurs qui avaient des difficultés financières par des prêts, quand ces prêts leur permettait vraiment de sortir de l'ornière. Donc il y a un discernement à faire. Le prêt, mais pour aider, pas pour enfouir. Et nous découvrons enfin aussi un autre aspect, un dernier aspect de notre... On n'a peut-être pas découvert tous les aspects, mais ceux-là, oui, que notre vocation de chrétien chef d'entreprise, c'est de servir, comme le Christ l'a fait. Et servir, c'est quoi? En fait, servir, c'est d'abord décider, puisque c'est notre première fonction. Décider pour avancer, décider d'investir, décider de privilégier le long terme par rapport au court terme. Décider d'assurer des réserves pour amortir les temps difficiles, ne pas tout distribuer. Servir, c'est exercer pleinement le pouvoir que l'on a. Savoir prendre des risques, les bons risques, savoir dire non, savoir dire oui, pas être entre deux, être clair. Servir, c'est créer de nouveaux produits, innover. Là, vous êtes bien dans ce milieu-là, vous le savez, vous le connaissez. Servir, c'est progresser et faire progresser ceux qui nous sont confiés, ceux avec qui on travaille. Les talents, hein, la parabole des talents. Et pour Patrick, je pense que servir, ça a été vraiment complètement d'assumer cette responsabilité de tiers-temps dans le domaine de l'entreprise collective.
En conclusion, avec cette prise de conscience et le cheminement qui en est résulté dans notre vie, en fait, notre vie professionnelle a trouvé une vraie cohérence par la présence de l'Esprit de Dieu en même temps qu'on a découvert une certaine sérénité, une beaucoup plus grande sérénité. Toutes nos actions, petites ou grandes, tous nos projets, nous pouvons les inscrire dans le projet global de Dieu auquel il nous associe. Mais nous sommes en chemin et malheureusement, nous n'échappons jamais à cet esprit du monde qui nous rattrape, qui essaie de nous rattraper toujours. Et même si aujourd'hui notre vie professionnelle s'achève, bien qu'encore fort impliquée avec deux enfants qui rentrent dans le circuit, nous comprenons à quel point Dieu attend de nous que nous soyons aujourd'hui pour toujours debout, pleinement dans le monde, mais habités de son esprit. Et qu'ainsi, nous essayons de témoigner de cet amour qu'il donne à profusion pour le monde.
Alors, nous avons vraiment une chose à vous souhaiter. D'abord, soyez plus rapide que nous. Nous, on a mis 25 ans. Alors, n'attendez pas 25 ans pour découvrir qu'on ne peut être chrétien tout seul. Et vu votre âge et votre présence à ce forum, nous sommes convaincus qu'il en sera ainsi. Merci.
Alors, c'est le temps des questions. Profitons de bien grand merci déjà pour le travail que ça représente. Vous avez passé pas mal d'heures, ça se voit.
C'est une révision de vie.
C'est
une révision de vie.
Et donc, voilà, est-ce que vous avez des questions à profiter pour poser?
J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un témoignage de Gérard Meunier, le patron de Champs, et il parlait de la transmission de ses entreprises aux membres de sa famille et leur donner des responsabilités et un cadre dans le tout en ayant un esprit en fait catholique. Et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas développé l'actionnariat auprès de vos enfants, par exemple, dans la transmission de vos entreprises.
Tout le monde a entendu la question?
Oui.
Vous avez entendu la question?
Oui, bon. Moi, tout à fait.
Alors, un des gros problèmes que l'on a quand on est indépendant, c'est le problème de la transmission. Quand il n'y a pas d'enfant intéressé par l'entreprise, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, il faut simplement trouver des repreneurs et essayer de faire en sorte que la cession de son entreprise soit dans des conditions qui assurent pleinement sa survie sur le moyen et le long terme. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, nous avons cédé des entreprises dans le parcours que l'on a eu. Et une des joies que l'on a aujourd'hui, c'est que la totalité des cessions que nous avons faites ont été des pleins succès aujourd'hui. D'accord ? Ce sont aujourd'hui des adhérents qui fonctionnent. Ça veut dire que les conditions financières de la cession étaient cohérentes par rapport à une exploitation future. Et aujourd'hui, ces points de vente-là vont bien. Et d'ailleurs, les personnes sont très heureuses de la façon dont ça s'était passé. Je crois que être chrétien en entreprise, c'est aussi cela. Alors, quand on a par contre des enfants, là c'est très compliqué. La problématique mulliaise est un peu différente de la nôtre. D'abord, ils sont beaucoup plus gros que nous. Hein. Mais eux, en fait, ce sont un actionnariat familial qui reste propriétaire de l'ensemble. D'accord ? Ils sont aujourd'hui à peu près 1000 héritiers, de l'ensemble Mullier. Et donc la problématique, c'est comment Mullier, qui est un chrétien, hein, qui est profondément convaincu, comment faire en sorte que l'esprit qui a été le sien, aujourd'hui, perdure à travers cet actionnariat, comment on l'organise, quelles sont les valeurs qu'il faut y avoir et qu'est-ce que ça implique concrètement pour la gestion de ce patrimoine familial. Il y arrive plutôt bien, même si c'est quand même complexe. Nous, la problématique est très différente. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas avoir d'actionnariat familial. Nous sommes un groupe d'indépendants. C'est-à-dire que nos enfants ne peuvent avoir qu'un point de vente. Hein, et en plus, c'est avec son conjoint. C'est-à-dire que ce n'est pas un frère et une sœur. Si un de nos enfants est marié, il peut racheter un de nos points de vente. Alors, si on a quatre enfants et qu'on a quatre points de vente, on peut vendre. Mais le problème, c'est que nous, on a réussi à en convaincre deux. Et les deux autres, ils sont perdus. Il y en a une qui est médecin, donc voilà. Et on a un autre, il est magistrat. Donc on ne réussit pas tout dans une vie. Et bon, il faut faire avec. Bon, le problème que l'on a, c'est que le problème de la transmission qu'on a, c'est comment garder une égalité, comment respecter aussi les règles fiscales. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas dire « je vais vendre moins cher » parce que c'est mon enfant, parce que le fisc veille au grain, d'accord ? Et vous avez un contrôle fiscal si vous ne vendez pas un prix suffisamment élevé. J'en ai eu un qui n'était pas vendu à un enfant, d'ailleurs, que j'ai vendu à l'Intermarché Clermont. Contrôle fiscal, monsieur, vous ne l'avez pas vendu assez cher, d'accord ? Sous-entendu, je n'ai pas touché suffisamment de taxes, d'accord ? C'est ça, en fait, la préoccupation. Bon, très bien, le contrôle s'est bien passé, on leur a expliqué qu'ils se trompaient, etc. Mais enfin, il faut travailler le sujet quand même, hein. Ça se fait pas comme ça. Alors quand on est avec les enfants, nous la problématique c'est, donc nous avons deux enfants qui reprennent les affaires, et notre gros problème c'est comment conserver une égalité entre nos enfants avec des univers complètement différents, deux qui reprennent et deux qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est très important, parce que nous avons une chance extraordinaire, c'est que nos enfants s'entendent très très bien entre eux, et ces valeurs qu'on a réussi un peu à transmettre et la façon dont ils vivent leurs relations, pour nous, ce qui est premier, c'est que ça perdure. C'est premier. Et donc, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé depuis une quinzaine d'années. On a conçu une façon de faire en disant, voilà, s'il y en a un, deux qui viennent chez nous, voilà comment on propose ça. Et à ce moment-là, nous avons réuni nos enfants, il y a une dizaine d'années, en disant, écoutez, voilà, on ne sait pas s'il y en a qui vont venir ou pas, mais voilà comment les choses vont se passer financièrement, s'il y en a qui viennent ou pas. Donc on a mis tout sur la table, et nos enfants sont au courant de tout et adhèrent à ce que nous avons proposé, considérant que c'était juste, d'accord ? Que ce que nous faisions était juste. Alors je ne rentre pas dans la technique, c'est un peu compliqué, mais c'est pour nous quelque chose de très important. Il n'y aurait rien de pire pour nous que de briser cette magnifique unité familiale que l'on a, pour des questions de succession, des problèmes financiers, etc. Donc c'est un gros sujet important, bon, mais qui va bien se passer chez nous parce qu'on l'a anticipé et puis qu'on a aussi la chance d'avoir des enfants qui sont chouettes. Voilà. Même ceux qui ne sont pas...
Oui, puis il y avait un autre aspect, peut-être aussi dans... On a voulu aussi, d'une certaine façon, il y a 10 ans, non pas clore le sujet, parce qu'il va se reposer dans la mesure où il y en a une qui arrive, quoi. C'est que d'une certaine façon, on met de côté dans les relations familiales le problème d'argent. Il y a un moment donné, on l'aborde, parce qu'on doit aborder les sujets de face, et que l'argent, dans la mesure où il est un moyen de développement, il n'est pas sale, c'est quelque chose qui doit être reconnu comme tel. Mais à un moment donné, il ne faut plus que l'argent soit dans les discussions, dans les sujets. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est la vie de l'entreprise, éventuellement ce que les frères et sœurs font, mais pas l'argent, voilà, pas la valeur de l'argent.
Ce n'est pas un sujet. C'est plus un sujet. On n'en parle jamais, les choses sont établies, les choses sont faites. Voilà.
Mullier, voilà.
Au cœur, les relations de l'homme et le développement qu'on peut apporter à nos équipes, les valeurs chrétiennes sont vraiment palpables au sein de ce groupe. En revanche, c'est vrai qu'en étant en magasin, c'est un rythme de travail qui est très... sportif. Donc je comprends très bien ce que vous dites au niveau de l'unité qu'on peut chercher entre les valeurs chrétiennes qu'on a et comment on les véhicule au sein de l'entreprise. En revanche, ma question, et c'est vraiment mon souci en ce moment, c'est comment on arrive quand même à garder un équilibre entre tous nos engagements personnels, familiaux, notamment vous êtes parent de 4 enfants, et cette dynamique professionnelle qui est passionnante mais qui peut être un peu enfermante et que l'entourage ne comprend pas forcément.
Quand j'étais responsable de l'humain dans le groupement, je recevais tous les mois les personnes qui rentraient pour devenir chef d'entreprise. Et c'était une question qui m'était toujours posée, notamment par les épouses, sur la problématique, mais comment on fait quoi ? Donc il va falloir qu'on travaille, on a les enfants, comment on trouve l'équilibre, etc. Je crois que le seul fait de se poser la question, de ne pas se laisser entraîner dans la spirale du monde, c'est déjà un point important. Je crois que il faut notamment par rapport à la problématique des enfants et pour soi-même, je crois qu'il faut se fixer un certain nombre de règles qui sont intangibles. Moi, je parle tout à l'heure du cancer. Une des choses que j'ai fait après le cancer, j'ai pris quelques décisions qui n'étaient plus négociables. J'ai pris à ce moment-là la décision énorme de ne plus jamais travailler le samedi. Ce que je fais d'ailleurs depuis que je suis en retraite. Maintenant, je ne sais plus. Maintenant, je repars. Et puis pour préparer là, on a fait. Et donc, mais je pense aussi, mais là je m'adresse surtout, alors la problématique des gens qui ont des enfants, je pense aussi parce que nous, on a un petit peu l'exemple que notre engagement professionnel n'a pas nuit à l'éducation. Je pense aussi qu'il y a des valeurs importantes dans le travail et qu'on a aussi transmis à nos enfants le goût du travail, la nécessité de se prendre en main, la nécessité de s'investir. Et tous nos enfants, même ceux qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais notre fille qui est médecin ou notre fils qui est magistrat, ils ont quelque part le même comportement de nous, dans des univers différents, c'est-à-dire la prise en main, la prise de décision, on avance, d'accord, on assure, on prend des risques, voilà. Après, trouver l'équilibre, je crois qu'il faut essayer de fixer des points qui sont incontournables. Vous en parliez ce matin, c'est ce couple que vous avez en préparation au mariage avec le gars qui, oui, à un moment donné, il faut complètement dire stop. Et je le vis actuellement avec notre fille et notre gendre qui arrivent là en formation, là, qui sont depuis 6 mois chez nous. Eh bien, ils s'engagent de trop, d'accord ? Ils n'ont pas le truc du recul, etc. On leur dit, ils nous écoutent pas. Bon, mais il va falloir qu'ils réalisent par eux-mêmes, parce que bon. Mais effectivement, à un moment donné, il faut absolument arriver à mettre des limites. Il faut les chercher soi-même. Je crois que ce qui nous a permis à avancer, à trouver des limites, c'est à un moment donné ce temps mensuel de réflexion avec d'autres sur des sujets identiques. Je crois que le message que vous avez fait passer ce matin, on fait passer la même chose. On ne peut pas y arriver tout seul. Alors, nous, on a mis 20 ans à s'en rendre compte. Mettez moins de temps, je crois. Ouais, on a besoin d'échanger avec d'autres sur. Mais c'est pas facile. Et vous appartenez à des mondes différents, mais vous êtes bien. La vie que vous avez aujourd'hui pour un certain nombre d'entre vous, elle est encore plus dure que celle que nous, on a pu avoir. Hein. Je connais bien le monde de l'entreprise et je connais un certain nombre de jeunes aujourd'hui. C'est parfois fort dur, fort difficile. Et quand on est indépendant, on fait ce qu'on veut. Quand on travaille chez d'autres, c'est différent. C'est plus compliqué que ça ne l'est pour nous.
Est-ce qu'Intermarché revérifie régulièrement ces fondamentaux là dont vous avez parlé, ce qu'on appelle, on est un peu la famille comme ça, Mullier, l'affection societatis, c'est-à-dire l'esprit là, c'est une famille pour les Mullier, mais l'esprit qui anime ce réseau d'indépendants, est-ce que des relectures, pour employer notre jargon, qui sont faites, et des personnes dont on estime qu'ils ne le pratiquent pas et dont on peut éventuellement relever de la responsabilité.
Je porterai pas forcément une. Je suis pas forcément très optimiste par rapport à cette problématique. En fait, notre groupe a été créé par des gens profondément catholiques, d'ailleurs. Et des valeurs, vraiment des valeurs profondes, qu'on ressent d'ailleurs au niveau des règles que je vous ai dit, un homme, une voix, etc. Bon, c'est pas très capitalistique comme approche, moi, comme je disais. Aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est un peu ce que vit notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'individualisme est croissant dans nos sociétés. Il est croissant au niveau de notre groupement. L'esprit du monde envahit notre groupe. Et je pense que il manque sûrement aujourd'hui des hommes ou des femmes qui s'approprient ces problématiques. C'est ce que je ressens. Et je ressens négativement cette évolution. Bon, n'étant plus dans le groupe, mais ayant des enfants, j'essaie de faire passer des messages, mais voilà, ce ne sont plus que des messages. Voilà. Bon.
C'est une question. Je suis éleveur de moutons.
Comment ?
Il est éleveur de moutons.
Ah oui. Alors c'est un sujet auquel je suis personnellement très sensible parce que je suis issu du milieu agricole et tous mes cousins, tout le monde est agriculteur, donc éleveur. Donc moi je crois que la grande distribution, on est dans l'univers capitalisme, d'accord ? Donc on essaie d'acheter le moins cher possible et la concurrence nous impose de vendre le moins cher possible. Et a priori comme ça, la problématique, c'est pas celle de savoir si le monde agricole, etc., doit bien se comporter ou pas. Le principe n'est pas celui-là. Alors pour autant, si on prend un peu de recul, on peut considérer aussi que ça peut être l'intérêt du consommateur que d'avoir des produits de qualité, même si il faut les payer un peu plus cher, et puis aussi d'avoir une constance dans la qualité, une constance dans le temps, etc. Et un groupe comme le nôtre a été peu touché par les manifestations qu'il y a récemment, parce que on a passé des accords avec des groupements de producteurs de porc, de producteurs de bovins, etc., pour justement, en contrepartie d'un approvisionnement régulier dans le temps et d'un prix un peu plus élevé que le marché, avoir une qualité et une assurance d'une qualité supérieure et d'une sécurité aussi. Parce que nous, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un gros pôle industriel, nous sommes les seuls à avoir un énorme pôle industriel, 60 usines chez nous, on fabrique nous-mêmes et on vend sous notre nom. Et quand on vend sous notre nom, notre responsabilité est énorme. Demain, dans les médias, on annonce que il y a la vache folle dans les produits SVA, c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, la problématique de qualité, elle est très importante, et la problématique de qualité de l'approvisionnement est importante. Mais...
Alors, ça me choque un peu, je vois, les meilleurs prix pour la qualité française. Et c'est vrai que, en fait, quand j'entends cette phrase-là, je me dis, on est en train de se faire avoir, parce que, forcément, si on veut avoir toujours le meilleur prix, à un moment, c'est forcément au détriment de quelque chose. Et c'est souvent au détriment de la qualité. Et comment ça doit être compliqué pour vous, en effet, de dire, bon, en effet, on a un problème de concurrence. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que ce soit Casino, Auchan, Intermarché, c'est des catholiques qui sont à l'origine, finalement, de ces sociétés-là. Mmh. Et que, in fine, 50 ans plus tard, on arrive à quelque chose où on ne suffit plus que le prix comme le seul et unique moyen de faire venir, même si on sent que la qualité est chaîne-là de prendre ce sujet et de dire oui, c'est une ouf, bien sûr, il faudra payer un peu plus cher si vous voulez avoir une meilleure qualité.
Ce que j'ai dit tout à l'heure de la découverte que l'on avait fait, que notre entreprise elle-même devait devenir citoyenne. L'entreprise, personne morale d'ailleurs, et vous personne morale, devait devenir entreprise citoyenne. La seule façon qu'on unifie notre vie et qu'elle entre dans le projet de Dieu, cette exigence-là fait qu'on ne peut pas ne pas intégrer cette approche que vous développez là. On ne peut pas ne pas l'intégrer. Notamment quand nous, on s'adresse à des producteurs locaux qui vendent dans nos points de vente. Nous de Beauchère ou nous X ou Y. C'est une donnée qu'on ne peut pas ne pas intégrer si on a ces valeurs-là. Par contre, quand vous êtes dans la logique de système économique, de concurrence à outrance, etc., où les valeurs, elles sont ce que les hommes en font au-delà des systèmes, ça va être l'humain qui peut faire la différence. D'accord ? Et c'est toute la problématique. Toutes les problématiques. Fondamentalement, aujourd'hui, c'est le consommateur qui fait la différence. C'est le consommateur qui, s'il accepte qu'on achète des ovins un peu plus chers parce qu'on est sûr de la qualité des produits, on est assuré aussi de sa traçabilité, etc. S'il l'accepte, il faut y aller. Mais à un moment donné, la grosse problématique, c'est l'éducation du consommateur. Quand on a reçu Tristan Lecomte qui a créé Alter Eco, on l'a implanté, nous on a posé un acte de dire on vous donne gratuitement un linéaire bien placé dans nos points de vente pour vous vendiez vos produits. Donc évidemment, le gars on l'appelle, les EDC, on aimerait bien que vous veniez nous voir, il arrive. Et là l'Esprit Saint a dû souffler parce que Marie-Chantal qui avait traité avec lui, je dis écoute tu devrais essayer de l'appeler, les EDC aimeraient bien rencontrer ce gars-là, on pourrait passer quand même une soirée sympa de voir ses trucs, etc. Chantal, mais oui, mais attends, où est-ce qu'est son truc, où est-ce qu'est son numéro de téléphone? On appelle, on prend le téléphone, Tristan Lecomte, j'aimerais vous voir. D'accord. Donc c'est toi. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Donc Tristan Lecomte appelait pour faire un point sur la vente de ses produits chez nous. On dit, écoutez, ça tombe bien, on aurait besoin que vous veniez parler. Alors, il n'est pas catho, mais les valeurs qu'il développe, elles sont chrétiennes, et il a une sœur religieuse. Bon, alors, oui. Mais il nous a expliqué qu'il n'était pas catho, pas de problème. Donc, on a passé une magnifique réunion. Alors, moi, je pense que on ne va pas faire de la politique, mais un des gros problèmes du monde agricole aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous voulez, il supporte des charges que les concurrents étrangers n'ont pas. D'accord ? Et c'est une problématique de fond qu'il y a. Sans compter que le crédit agricole. Le monde agricole souffre aussi d'avoir été trop producteur uniquement et de ne pas s'être suffisamment projeté dans l'acte de vente. D'accord ? On a créé un système où l'agriculteur produit. Oui, mais il faut avoir une logique de vente derrière. Hein ? Il faut l'intégrer, ces données-là. Il y avait un gros producteur de vaches en Allemagne, là, truc intégré, qui vend son lait, les vaches ne vont pas à l'herbe. D'accord ? Donc ils vendent leur lait, eux ils n'ont pas de problème de surproduction en Allemagne parce qu'ils sont très bas en prix, pour multiples raisons. Et on lui dit, mais pourquoi vous ne mettez pas vos bovins à l'herbe? Ce serait, je ne les mets pas à l'herbe, je peux les mettre, mais je dois vendre un centime plus cher et mon consommateur n'en veut pas. Ouais, logique du consommateur, le consommateur ne veut pas, donc je ne les mets pas. Si le consommateur il veut qu'elles aillent à l'herbe, qu'il paye un centime de plus, bien évidemment je les mets. Enfin bon, c'est un sujet compliqué.
Écoutez, on va s'arrêter là maintenant. Un grand merci.